Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Marion.
En football, quatre derniers qualifiés même pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Paris en fait partie.
Je vois que vous êtes une connaisseuse des Parisiens libérés avec 7 buts marqués face à Brest. 10-0 sur l'ensemble des deux matchs. Voilà, il n'y avait rien à faire face à un PSG aussi clinique. Mais les Brestois de Massadio Aïdara se consolent en se disant que leur parcours en Ligue des Champions valait d'être vécu. C'est en tout cas l'avis de l'entraîneur breton Éric Roy.
On n'avait pas envie de terminer l'aventure de cette manière. Il était évident qu'on espérait faire un meilleur résultat, pouvoir accrocher cette équipe. Après, malheureusement, il faut reconnaître que ils étaient bien supérieurs. Et puis en plus, comme on a trop de réussite en plus. À partir de là, contre ces équipes-là, si tu as pas un petit peu les yeux du foot avec toi, c'est impossible d'exister. Donc c'est vrai qu'il y a la déception, surtout elle est liée par rapport à ce score qui est fleuve et qui fait mal. Maintenant, après, j'ai envie de retenir quand même le magnifique parcours de mon équipe et c'est ça qui restera de toute façon, quoi qu'il arrive.
Éric Roy avec Sofiane Amazian. Paris qualifié donc, tout comme le Real Madrid qui a surclassé Manchester City 3-1, le Borussia Dortmund après son nul 0-0 face au Sporting et le PSV Eindhoven qui est allé jusqu'en prolongation mais a fini par éliminer la Juventus.
Le foot féminin à présent avec les éliminatoires de la CAN 2026, un premier tour aller qui a démarré sur le carton de l'Algérie.
5-0 face au Soudan du Sud, propre et net, tandis que le Niger lui a chuté 2-0 face à la Gambie. Suite de ce premier tour aller ce jeudi avec la RDC en déplacement à Gaborone pour affronter le Botswana. Les Léopards d'âme, dirigés par la Marocaine Lamia Boumedi, coach du TP Mazembe féminin et qui va assurer l'intérim de Papi Kimoto. Le point sur les forces en présence avec Olga Massangou.
Amputée de 5 de ses joueuses pour des raisons administratives, c'est avec ce handicap que Lamia Boumedi, sélectionneur intérimaire des Léopards Senior d'âme, va affronter le Botswana ce jeudi.
On n'aura pas les changements. Malheureusement, il y a 5 joueuses qui n'ont pas pu venir ici, mais on doit faire avec. La seule chose que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas de blessures. Il y a quelques joueuses qui sont polyvalentes, qui jouent deux postes. Ça va nous aider pour les postes qu'il nous manque.
Élu entraîneur de l'année après son sacre avec le TP Mazembe en Ligue des Champions, la coach marocaine a la recette qui pourrait amener ses filles à la victoire.
Tout d'abord, la discipline tactique et le moral. Et à la fin, il faut qu'ils mouillent le maillot de la RDC.
Heureuse de retrouver le terrain en match officiel. Depuis leur qualification à la CAN 2024, les Congolaises caressent déjà le rêve d'une deuxième qualification de suite. Et que je sais Kanzinga est latéral gauche.
On est obligé de gagner ces matchs pour nos frères qui sont à l'est du pays, pour les honorer et pour être encore qualifiés pour le prochain tour de la CAN. Vu qu'on venait de passer à la CAN Maroc 2024, on sera obligé de s'enregistrer dans chaque édition de la CAN.
La grande absente de cette campagne reste la nouvelle parisienne, Merveille Kanzinga, qui n'a pas été convoquée, elle qui doit s'intégrer dans son nouveau club. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
Botswana, RDC, coup d'envoi, 14h, temps universel, en même temps que Tanzanie-Guinée équatoriale. À 15h30, TU, le Gabon reçoit le Mali, avant qu'à 16h, temps universel, le Bénin accueille la Sierra Leone à Lomé, et l'Angola affronte le Zimbabwe.
Cette sélection, toujours Antoine, mais chez les messieurs, deux amicaux d'ampleur en préparation pour le Sénégal et le Maroc.
Les Sénégalais d'abord qui s'offrent l'Angleterre pour une réédition du 8e de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ça sera le 10 juin, pendant que le Maroc, lui, affrontera la Tunisie dans un derby d'Afrique du Nord le 7 juin prochain.
Le journal des sports, signé Antoine Grenier, 6h46 à Paris, les grands titres de l'actualité ce jeudi 20 février.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanove.
Donald Trump à la Maison-Blanche, un mois de présidence, des décrets par dizaines, des déclarations à tout va sur tous les sujets. Le président américain continue de saturer l'espace médiatique sur la guerre en Ukraine. Il redouble ses attaques contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il a qualifié hier de dictateur. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, poursuivent leur avancée dans l'est de la RDC. Après Bukavu, ils se dirigent vers Uvara, la deuxième plus grande ville du sud Kivu. La France rétrocède aujourd'hui sa base militaire de Port-Boué en Côte d'Ivoire. On revient plus largement dans le dossier du journal de 8h, heure de Paris. On sera en direct d'Abidjan. En Iran, 975 personnes ont été exécutées l'an dernier. Chiffre publié ce matin par deux ONG qui dénoncent une escalade effroyable du retour à la peine de mort comme moyen de répression politique. La mort d'une figure du cinéma africain, le réalisateur malien Souleymane Cissé, s'est éteint hier à 84 ans, à Bamako. Il avait notamment reçu le prix du jury au Festival de Cannes en 1987 pour son film Yélène. Et puis en football, on l'a évoqué, on en a parlé dans le Journal des Sports, on connaît les quatre derniers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, parmi eux le Real Madrid qui a battu Manchester City, le PSG a écrasé Brest 7-0, qualification aussi du PSV Eindhoven au détriment de la Juve et du Borussia Dortmund, malgré son nul contre le Sporting Portugal. Le Conseil de sécurité de l'ONU, une nouvelle fois réuni en urgence sur la situation en RDC. Il a dénoncé à nouveau les violences dans l'est du pays et appelle le M23 et l'armée rwandaise à cesser les combats. Ces dernières semaines, de nombreux acteurs tentent d'apaiser la situation, notamment l'Église catholique et les protestants congolais. Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, fait partie de la délégation religieuse qui s'est rendue à Goma récemment. Ces religieux ont rencontré ces derniers jours le président rwandais Paul Kagame, le président kényan William Ruto ou encore Corneille Nangaa, coordinateur de l'AFC M23. Monseigneur Chollet revient sur son initiative. Il est ce matin l'invité de Lisa Fabian.
Monseigneur Donatien Chollet, bonjour.
Bonjour.
La semaine dernière, à Goma, vous avez rencontré Corneille Nangaa, le coordinateur de l'AFC M23. Après cette rencontre, ses troupes, appuyées par l'armée rwandaise, se sont emparées de Bukavu. Était-il utile de le rencontrer ?
Oui, nous estimons que c'était très utile de le rencontrer parce que pour nous, la solution militaire n'en est pas une. L'idéal serait que les Congolais s'assoient autour d'une table et qu'ils trouvent un consensus national autour de leurs différends plutôt que de s'engager dans une voie qui fait autant de morts, de pertes non seulement en vies humaines, mais aussi aux infrastructures nécessaires pour le développement du pays.
Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur le bilan que vous avez pu tirer de l'échange que vous avez eu avec Corneille Nangaa ?
Nous sommes allés le convaincre de la nécessité d'un dialogue et ils ont été ouverts à l'initiative. Ils ont promis d'envoyer leur cahier de charges assorti des conditions pour qu'ils participent à ce dialogue. Pour nous, c'était déjà une ouverture. C'est la même démarche qu'on a faite auprès des autres acteurs sociopolitiques du pays pour le même objectif. Évidemment, on aurait souhaité qu'on puisse arrêter les combats sur le terrain. Ça nous inquiète qu'on continue encore à se battre et que du côté de Kinshasa, il y a encore aussi des voix qui parlent en termes de résistance, en termes de militaires. Ça, vraiment, nous décourageons. Pour arriver à une solution pacifique comme nous la proposons, il faut des signaux de part et d'autre. Il faut vraiment un engagement formel et de la part de M23 et de la part de Kinshasa. Il ne faudra pas que M23 considère que ce qu'on leur demande, c'est pour laisser le temps à l'autre camp de s'organiser. Il ne faudra pas que de l'autre côté de Kinshasa, on considère les négociations comme une faiblesse. Non, la guerre n'est vraiment pas une solution pour nous.
Vous avez également rencontré dans la foulée le président rwandais, Paul Kagame. Qu'avez-vous tiré de cette rencontre ? Pouvez-vous nous en dire plus ?
Bon, d'abord, l'écoute, il nous a écoutés, il nous a donné suffisamment de temps. Il a encouragé l'initiative, surtout qu'elle est pastorale pour apprendre ces mots, là où les politiciens n'ont pas réussi à trouver une solution. Et il a promis son implication à tout ce qui va dans le sens du dialogue, son soutien, pour qu'on en finisse avec ce conflit. Nous allons proposer quelque chose tenant compte et de la réalité et des avis des uns des autres. C'est en ce moment-là qu'on verra les vraies intentions des uns des autres.
Mais vous, votre souhait, c'est donc de pouvoir organiser une rencontre qui intégrerait l'AFC M23 ?
Absolument, parce que c'est une partie du problème aussi. On ne peut pas le mettre de côté. Corneille Nangaa et les autres sont des Congolais. Ils ont pris les armes. Ils doivent expliquer aux autres Congolais que nous sommes, pourquoi. Et les autres Congolais doivent aussi voir avec eux qu'est-ce qu'il faut pour trouver des solutions sans la guerre.
Monseigneur Donatien Chollet, les représentants de la SENCO et de l'ESCC ont aussi échangé avec William Ruto, le président du Kenya. Il est également président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est. Comment votre initiative s'intègre-t-elle dans la dynamique sous-régionale et comment s'articule-t-elle avec les processus de Luanda et de Nairobi?
C'était ça d'ailleurs l'objet de la rencontre, parce que au niveau national, nous espérons, avec la bonne volonté des acteurs sociopolitiques, arriver à un consensus qui sera la voix du Congo par rapport à la gouvernance interne, mais aussi par rapport aux relations avec le voisin. Et pour cela, la dynamique nationale a besoin de l'appui de la sous-région. Donc concrètement, après le consensus qui sera dégagé, ce ne sera plus la voix du président Tshisekedi qui sera entendue, mais c'est la voix des Congolais unis. Ça aura déjà un autre poids. Et la communauté politique sous-régionale devrait en tenir compte, voir comment intégrer ça dans le pourparlers de la sous-région. L'idéal pour nous, c'est à la fin de tout qu'on obtienne une conférence internationale pour la paix en RDC dans les Grands Lacs.
Monseigneur Donatien Chollet de la SENCO avec Lisa Fabian. La chronique des matières premières, on parle pétrole ce matin. La Chine, premier importateur mondial, change ses habitudes face à un marché contrarié par l'accumulation de sanctions commerciales et des prix en augmentation en Arabie Saoudite. Le géant asiatique se tourne désormais vers le Brésil et l'Afrique, Marie-Pierre Olfan.
Les dernières commandes passées par les raffineurs chinois montrent un regain d'intérêt pour le Brésil et l'Angola en particulier. Selon les données de suivi maritime d'un cabinet franco-belge, ce mois de février, les arrivées de pétrole brésilien en Chine pourraient augmenter de près de 50% par rapport au mois dernier et celles d'Angola de 36%. Pour les mois de mars et avril, la tendance s'annonce similaire avec plusieurs cargaisons attendues encore du Brésil, d'Angola mais aussi du Nigeria. On parle en particulier d'un achat de 20 millions de barils de brut nigérian par la société publique chinoise de négoce Unipec. Cette réorganisation des approvisionnements reflète le durcissement des sanctions sur le pétrole russe, en particulier des sanctions américaines qui se sont renforcées le 10 janvier dernier pour entraver un peu plus les exportations de ce brut bon marché. Des sanctions qui ont poussé la Chine à reporter certains de ses achats sur les pays du Golfe. Mais la demande a été telle qu'elle a fini par faire grimper les prix pour le pétrole d'Oman, de Dubaï, mais aussi d'Arabie Saoudite, hausse qui pousse les raffineurs de l'Empire du Milieu à acheter moins de pétrole de la région. L'adaptation des raffineurs chinois est aussi liée aux tensions avec les États-Unis. Depuis le 10 février, Pékin impose une taxe de 10% sur le brut américain en réponse aux mesures douanières prises par Donald Trump. Le pétrole américain ne représente certes qu'une infime partie de l'approvisionnement chinois, mais pour ne pas payer la taxe, les raffineurs ont tout intérêt à orienter leurs achats habituels vers d'autres sources. Il n'est d'ailleurs pas exclu que des cargaisons de pétrole américain qui devaient être livrées dans les prochaines semaines soient revendues pendant leur trajet en mer avant d'arriver en Chine, une pratique courante dans le milieu du trading.
La chronique des matières premières, signée Marie-Pierre Olfon. L'Ukraine s'apprête à entrer dans sa quatrième année de guerre, une guerre que ses voisins craignent de voir déborder sur leurs frontières, notamment les États baltes qui, depuis ce blinde, augmentent leurs dépenses en matière de défense. Marielle Vituro est allée voir comment les Baltes vivent cette situation. Vivre à l'ombre des menaces, voyage dans les États baltes face aux Russes et Biélorusses, c'est le grand reportage de Marielle Vituro, on en écoute un extrait.
Direction le nord-est à 100 km vers Ludza, la plus ancienne ville de Lettonie. On se rapproche de la Russie. Quand on arrive, on voit le bulbe d'une église orthodoxe, les clochers des églises catholiques et luthériennes, et juste à côté, une synagogue.
Je suis Liga Kondrate, directrice de l'office de tourisme de Lutsa, en Latgale, à l'est de la Lettonie.
Les trains qui faisaient halte vers Moscou ne s'y arrêtent plus. La ville perd ses habitants et ses touristes.
Il y a 30 ans, Loutsa était complètement inconnue des touristes à Riga. Maintenant, les gens connaissent la ville, ils savent que c'est très agréable. Nous avons 5 lacs dans la ville, un grand sentier de randonnée. Mais nous avons perdu 20-25% de nos touristes l'année dernière. Nous voudrions que les étrangers reviennent aussi plus vite, mais on ne vient pas ici car c'est trop près de la frontière. Pourtant, tout va très bien et s'il devait se passer quelque chose, nous aurons le temps de voir venir.
Pour continuer la route vers l'Estonie, il faut emprunter des chemins de terre. Au détour d'un virage apparaît un panneau. À gauche, direction la République d'Estonie. Le rendez-vous est au poste frontière de Luama.
Je m'appelle Peter Maran, je suis donc le chef des gardes frontières du Sud-Est et nous sommes à Luama, à la frontière avec la Russie. Nous sommes à la frontière entre deux mondes, le monde libre et un pays dirigé par un dictateur. Comme on dit, nous sommes à la frontière de la liberté. Nous sommes habitués à cette situation. Même quand l'époque était plus clémente, vous savez, la Russie a toujours été suspecte. Et il faut toujours être sur ses gardes, se préparer à l'inattendu.
Vivre à l'ombre des menaces, voyage dans les États baltes face aux Russes et Biélorusses, un grand reportage de Marielle Vituro. Écoutez à 12h10, heure de Paris. À suivre sur RFI, un nouveau journal. À la une, un mois de présidence Trump et ses partisans galvanisés par ses annonces, notamment sur les coupes budgétaires. À tout de suite sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. La France restitue ce jeudi sa base militaire de Port-Bouët en Côte d'Ivoire, après le retrait des militaires français du Tchad le mois dernier et avant le départ des troupes du Sénégal d'ici à la fin de l'année. Que vous inspire l'évolution du dispositif militaire français en Afrique?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Dès l'annonce des élections en Allemagne, un dispositif de désinformation sous influence russe est activé au profit de l'extrême droite allemande. De fausses nouvelles publiées sur de faux sites selon un mode déjà éprouvé aux États-Unis. Avec Marc Fadoul, enquêteur numérique, nous évoquons ces menaces.